Chapitre 18.
En moins de 5 minutes, comme nous l'avons dit, l'incendie avait enveloppé l'édifice. Ce qu'il y a de plus effrayant au monde, c'est à coup sûr un incendie nocturne. Ce qui augmentait encore, dans la circonstance présente et l'horreur du spectacle et le danger du feu, c'est qu'un grand vent soufflait alors, qui en redoublait l'activité et poussait les flammes au-delà de leur foyer, dans toutes les directions, comme d'immenses serpents de feu qui eussent cherché de nouvelles proies. La grange, par bonheur, était suffisamment distante de tout autre édifice, et l'incendie ne put se propager. Mais n'avait-il pas à déplorer de bien plus grands malheurs? Combien de victimes avaient pu périr? Qui étaient-elles? Chacun tremblait pour les siens. Cette perplexité devint surtout terrible lorsque, la façade du bâtiment s'étant écroulée, on entrevit dans l'intérieur, sur une poutre presque intacte, où l'instinct de leur frayeur les avait entraînés, deux personnes dont on ne pouvait distinguer parfaitement les traits, et qu'en raison de cette incertitude même, chacun crut reconnaître pour lui appartenir. À cette vue, 1000 cris de terreur s'élevèrent comme un seul cri. Puis il se fit un silence plus effrayant encore. On respirait à peine, comme si chacun eût partagé le péril des deux infortunés. De temps en temps, la flamme les entourait et on les croyait ensevelis dans ses plis dévorants. Une longue et sourde plainte se faisait entendre, puis un coup de vent déchirait ce rideau de feu et les montrait de nouveau à la foule redevenue silencieuse, sur leurs poutres à demi consumées déjà, parmi les décombres et les tisons qui tombaient autour d'eux, et dont le moindre eût pu les précipiter dans le gouffre incandescent qui bouillonnait à leurs pieds. Leur perte était certaine, disait-on. Quel moyen de leur porter secours? L'essayer seulement, c'eût été s'exposer au même sort, sans nul avantage pour eux. Ainsi raisonnait la foule, car la foule est souvent plus peureuse, plus égoïste encore que compatissante. Eh bien, ce qu'elle n'osait tenter, un homme de cœur, un seul, l'essaya. Honneur à lui. Une longue échelle se dressa contre la partie du bâtiment la plus voisine de l'endroit où tous les yeux étaient fixés par la sympathie de l'effroi, et un homme de taille gigantesque en gravit rapidement les barreaux, malgré la flamme et la fumée qui s'échappaient incessamment par les crevasses. Bientôt il apparut debout, sur la crête du mur au bas duquel se trouvaient les malheureux que son courage bien méritant, mais bien inutile peut-être, l'emportait à vouloir sauver. Impossible en effet d'arriver jusqu'à eux. Que faire? Les abandonner? Mais comment s'y résoudre quand il les voyait là, qui lui tendaient les bras, qui l'imploraient de la voix et du geste? Tandis que la foule continuait de faire de la théorie, le hardi libérateur disparut subitement au milieu d'un tourbillon de fumée. Ne pouvant arriver jusqu'à eux qu'il avait résolu de sauver, l'inconnu s'était couché à plat ventre sur le mur. Il leur avait tendu la main, et grâce à son adresse et à sa force merveilleuse, il était parvenu, en les balançant d'abord au risque de leur désemboîter le bras, et en leur imprimant ensuite un vigoureux élan, au risque de leur briser la tête, il était parvenu, disons-nous, à les élever à la hauteur de ce mur et à les asseoir dessus. Mais le plus difficile était encore à faire. Restait à les conduire jusqu'à l'échelle qui se dressait par malheur à plus de 30 pas de là. Le trajet offrait de formidables difficultés. Il n'y avait que 2 manières de l'effectuer. Ou bien il leur fallait marcher debout au milieu d'une fumée brûlante sur un mur fort élevé où le moindre faux pas, le moindre vertige pouvait les faire manquer d'équilibre. Or, de quel côté qu'ils fussent tombés, soit en dehors, soit en dedans, c'était la mort. Ou bien il fallait se traîner péniblement sur ce mur, dont les pierres se détachaient une à une et croulaient sous le moindre poids. Or, c'était perdre du temps, et en pareille circonstance, une seconde peut-être, c'était encore la mort. Ils réussirent pourtant, car le plus sûr moyen de se garantir de tout, c'est justement de n'avoir peur de rien. Il n'est guère de danger dont on ne parvienne à se tirer, non par la prudence qui fuit, mais par celle qui affronte. Courage et sang-froid, voilà sur cette terre le meilleur bouclier de l'homme. Après 1000 obstacles, dont je n'ai pu vous donner qu'une imparfaite idée, et tel qu'après le succès on est encore tenté de les regarder comme insurmontables, l'inconnu et ses 2 protégés, qu'ils ne cessaient d'encourager, atteignirent enfin l'échelle et la descendirent l'un après l'autre, car déjà à moitié calcinée par les atteintes de la flamme, elle n'eût pu se porter sans se rompre le poids de 2 personnes. L'inconnu descendit le dernier. Il était temps. À peine eut-il posé le pied à terre que les murailles écharpantes, tout s'abîma. Rien ne resta debout. on ne vit plus à la place de l'édifice qu'un monceau de décombres, de pierres noircies et de tisons fumants. Mais quel était cet inconnu qui, comme tous ses pareils, les gens capables de grandes actions, faisant le bien par amour du bien, et non point par un sentiment de vaine gloriole, se souciait aussi peu des éloges dont on l'accablait vivant, qu'il se fût peu soucié des magnifiques épitaphes dont on eût chargé sa tombe? Enfin, quels étaient aussi les deux infortunés qu'il venait d'empêcher de rôtir d'une façon si courageuse? Vous vous doutez de ma double réponse. Le libérateur, c'était encore notre géant, et ses deux protégés, c'étaient encore Jean-Paul et Petit Jacques. Ces derniers faisaient vraiment pitié à voir, leurs habits de saltimbanque n'offraient plus que de sales lambeaux d'étoffe à moitié roussis par le feu, leur figure était noire de fumée, et leur tête presque chauve, car leurs cheveux, comme leurs sourcils, avaient été entièrement brûlés. C'était d'ailleurs le seul dommage qu'ils eussent subi en leur personne. Après les scènes d'admiration, de gratitude et d'attendrissement qui avaient suivi leur délivrance, vinrent inévitablement des scènes d'un genre moins pathétique. Les plus grandes catastrophes ici-bas ont toujours leur côté burlesque. Les passions sordides peuvent se taire un instant, quand la voix des circonstances graves se fait entendre plus haut que la leur. Mais, le danger passé, elles recouvrent bientôt leur loquace voracité. La carte à payer, hélas, est le terme de tout en ce bas monde, où rires et larmes, joie et douleur, enthousiasme et révolte, plaisir et peine, gloire et honte, tout aboutit souvent à une formule arithmétique. Comme à cette époque on n'avait pas encore imaginé les compagnies d'assurance, si utiles pour la plupart, le malheureux propriétaire n'avait ici pour toute ressource que la solvabilité du marquis de la Galoche. C'était peu de choses. Faute de mieux, l'incendié s'adressa donc à son seul débiteur, naturellement responsable du désastre, puisque la cause première était venue de personnes appartenant à la troupe. Mais le marquis de la Galoche n'était ni d'humeur ni de fortune à payer un pareil dégât. Lui aussi, puisqu'il s'agissait de donner et non de recevoir, il eut recours aux grands airs poétiques, aux maximes excessives d'honneur, de probité, de désintéressement, dont nous parlions plus haut. « Je m'étonne, s'écria-t-il d'un ton dédaigneux, qu'en présence d'une si horrible catastrophe, quand la consternation règne encore sur tous les visages comme au fond de tous les cœurs, quand les cendres de ce monument sont encore fumantes, quand les braves citoyens qui nous écoutent sont encore tout palpitants d'épouvante, oui, je m'étonne et même je m'indigne qu'un homme, un seul, il est vrai, ait le courage de venir jeter des paroles d'argent au milieu de si poignantes émotions. » De changer en une vile question de lucre une si déplorable calamité, et qui sait, de profiter peut-être de la douleur publique pour bénéficier sur l'infortune. Ah, monsieur, je rougis pour l'humanité de votre conduite. Allez, allez, passez votre chemin, bonhomme. On ne peut pas vous donner. La seule indemnité que vous puissiez espérer, c'est l'estime de vos semblables, c'est la considération des honnêtes gens, c'est la bienveillance de vos concitoyens. C'est enfin la sympathie profonde que je porte moi-même à votre malheur. Ce dédommagement ne saurait vous manquer, si vous avez la pudeur de n'en pas réclamer d'autres. Et celui-là, croyez-moi, vaut à lui seul tous les trésors de la terre. Songez, monsieur, qu'en ce moment solennel, la France tout entière a les yeux sur vous. Adieu. » À ces mots, le marquis de la Galoche tourna le dos au requérant et fit un pas pour s'éloigner. Mais celui-ci le saisit au collet. « Ne me touchez pas !» reprit vivement le marquis en se dégageant des mains de son créancier. « Ne portez pas la main sur moi ou par la sangbleu, je crie à la garde, à l'assassin, au voleur, je vous traduis en police correctionnelle, je vous dénonce à l'animadversion de vos concitoyens, je vous signale même à l'indignation des races futures. » Monsieur l'adjoint, avec qui nous avons déjà fait connaissance, arriva heureusement pendant cette apostrophe du marquis. Il accourait au bruit du tocsin, en même temps que les pompes retardataires, dans ce village qui faisait partie, comme le précédent, de sa juridiction éclairée. C'était de sa nature un homme très sensible, mais la rapidité de sa marche l'avait trop essoufflé pour qu'il pût être accessible en ce moment à l'éloquence du saltimbanque. L'essoufflement est très voisin de la stupidité. Il n'en était pas de même de la foule. les mots ronflants de braves citoyens, de calamité, de pudeur, d'estime publique, de générosité, de désintéressement, etc., l'avaient profondément ému. Ces grands mots, jetés à propos ou non, mais d'une voix retentissante, au milieu d'une multitude, y produisent toujours des commotions électriques. L'assistance, d'ailleurs, n'étant pas composée de Richard, devait sympathiser avec le prolétaire. La raison inverse dut au contraire disposer favorablement le magistrat pour le propriétaire de la grange. Il évoqua la cause, engagea le demandeur à ne point sortir des termes de la modération et enjoignit au défendeur de rester en sa présence pour y répondre péremptoirement aux réclamations de son adversaire. Cette conduite parfaitement équitable fit murmurer la foule qui lui retira d'emblée une partie de la popularité qu'elle lui avait accordée d'emblée la veille. « Vous ne partirez pas sans m'avoir payé !» s'écria le propriétaire en continuant de barrer le passage au saltimbanque. « Quoi ? Qu'est-ce ? » repartit le marquis avec dignité. « Vous attentez, je crois, à ma liberté individuelle. Arrière, bonhomme, arrière !»« Vous avez beau dire, » répondit le propriétaire, « nous ne nous quitterons pas sans avoir réglé notre compte. Qui brûle les granges, les paye. Je m'en rapporte à monsieur l'adjoint. » « Je respecte infiniment l'autorité sacrée de Monseigneur l'adjoint, » reprit le marquis, « mais son Excellence n'a pas mission de juger de simples questions de sous et de deniers. »« C'est possible, » interrompit le propriétaire, « mais si Monsieur l'adjoint ne peut pas vous contraindre à payer, il peut du moins vous flanquer provisoirement en prison comme incendiaire. »« Pourquoi pas comme faux monnayeur pendant que vous y êtes ? Allez, allez, mon brave homme, je dédaigne vos injures. Elles partent de trop bas pour pouvoir m'atteindre. Au fait, que voulez-vous ? Vous refusez tout ce que, dans ma longanimité, j'ai la faiblesse de vous offrir. Adieu ! Ce que je veux que vous me payiez ma grange à l'instant même, ou bien qu'on vous mène coucher en prison. » « Eh, mon Dieu, si ce n'est que cela, il fallait donc le dire plus tôt. Passez à ma caisse, mais demain, après-demain, la semaine prochaine, car aujourd'hui je suis trop ému pour m'occuper d'affaires d'intérêt. » J'ai besoin d'ailleurs de m'entendre avec mon banquier, l'illustre baron de Rothschild, pour retirer d'entre ses mains une bagatelle, quelques centaines de mille francs, je crois, qui m'embarrassait dans mes voyages. Tout ce que je puis vous offrir pour le moment, c'est un billet de moi, c'est la signature de la maison Galoche et compagnie, mais cela vaut de l'or, cela vaut même infiniment mieux. C'est moins lourd et plus portatif, donnez-moi une plume, adieu. Du tout, ni billet, ni signature, ni traite sur votre banquier. C'est de l'argent qu'il me faut, sinon je retiens votre Bataclan, je le fais vendre à mon profit, et si ça ne suffit pas, je vous fais coffrer pour le reste. Tout ce verbiage est inutile. Vous avez brûlé ma grange, vous me payerez ma grange. Je ne connais que ça. Elle ne valait pas beaucoup, il n'y avait pas grand-chose dedans, mais c'est égal, si peu que peu, vous l'avez brûlée, vous la payerez. « Ah ah, vous le prenez sur ce ton !» s'écria en désespoir de cause le marquis de la Galoche, dont la puissance croissait toujours en proportion de l'embarras où il pouvait se trouver. « Eh bien, je réclame à mon tour le prix de ma ménagerie. J'avais l'intention de vous en faire cadeau, en considération de vos pertes, car je suis un homme de bien, et je me serais fait scrupule d'aggraver votre situation. Mais enfin, puisque vous faites le joli cœur, je n'écoute plus rien, j'impose silence à la sensibilité de mon naturel, et je réclame le prix de ma ménagerie. Et au fait, je serais bien bête de n'en rien faire. Raisonnons. Vous m'aviez loué une grange pour m'y mettre en sûreté, moi et les miens. Il faut convenir que je m'adressais joliment. Enfin, qu'importe. Au lieu de cela, votre satanée baraque s'avise de prendre feu comme une allumette et de réduire mes animaux à l'état de gigot de mouton. Ces messieurs et dames savent que c'est votre faute. Donc, puisque c'est votre faute, vous devez me rembourser la valeur de ce que vous m'avez fait perdre. Il me semble que c'est clair. Eh eh, mon brave homme, cela vous apprendra à vouloir faire le rodomont. Adieu. Il ne s'agit pas de cela, morbleu, répéta le propriétaire, que l'effronterie du marquis de la Galoche avait complètement exaspéré. Vous avez brûlé ma grange, vous me payerez ma grange. Vous avez brûlé ma ménagerie, vous me payerez ma ménagerie. Vous me payerez ma grange. Vous me payerez ma ménagerie. Je demande 6 000 francs de dommages-intérêts. Je demande 1 500 francs d'indemnité. Vous êtes un brigand. Vous êtes un polisson. Monsieur, monsieur, je ne sais ce qui me retient de vous exterminer. J'ai besoin de toute la clémence dont la nature m'a doué pour ne pas vous manger tout cru. » L'explication, après avoir suivi toutes les phases ordinaires, depuis l'exquise politesse jusqu'à l'insultante grossièreté, eût certainement fini par les voies de fait habituelles sans l'officieuse intervention du géant. Le mystérieux personnage se plaça tout à coup entre les adversaires, les sépara, les mena à l'écart et leur parla tout bas. Que dit-il pour les apaiser ? Promit-il à chacun d'eux une égale indemnité ? Et s'il fit cette double promesse, fût-ce en son nom ou bien au nom d'une personne absente ? Je l'ignore, mais sa parole eut pour résultat de les calmer subitement l'un et l'autre. « Du moment qu'il en est ainsi, dirent-ils, cela suffit. » « J'étais bien sûr que je ne payerais pas, ajouta le marquis. « J'étais bien sûr que je serais payé, répliqua le propriétaire. « Et nous avions tous deux raison. « Tant il est vrai qu'en affaires, pour être parfaitement d'accord, il n'y a rien de tel que de s'entendre. « À qui le dites-vous ? « Quant à moi, je n'ai jamais douté un seul instant de votre loyauté. « J'ai toujours rendu justice à la vôtre. « On peut se disputer entre honnêtes gens, on peut même se dire une foule d'injures, mais cela n'empêche pas de se comprendre et de s'estimer. Au contraire, parbleu, vous me faites l'effet d'un franc luron. Et vous, d'un bon enfant, donnez-moi une poignée de main, de tout mon cœur, et allons boire à notre réconciliation. Il n'y a rien qui altère comme l'éloquence. » La foule s'était attendue à un pugilat. Elle fut déçue et mécontente. C'est toujours ainsi. Quand deux hommes se menacent du geste, de la parole ou de la plume, la foule s'amasse autour d'eux, les agace, les pousse, et trouve qu'ils mettent trop de lenteur à passer à l'action. Puis, quand l'action est faite, la foule les blâme énergiquement d'avoir cédé à ses instigations. Il est difficile, comme on le voit, de satisfaire ses moindres caprices. Le mieux est de n'y pas prétendre. Castor et Pollux se rendirent bras dessus, bras dessous, au prochain cabaret. Le géant disparut alors, après avoir échangé avec le marquis de la Galoche, un de ces branlements de tête qui prouvent qu'on est parfaitement d'accord. De quelle nature pouvaient être les intelligences qui existaient entre eux, si toutefois il en existait ? Nous parviendrons peut-être à pénétrer tôt ou tard ce mystère, car pour sûr, il y a quelques mystères là-dessous. Mais pardon, j'allais oublier monsieur l'adjoint. Nous l'avons laissé en état de léthargie sur la chaise que la piété filiale des administrés avait offerte d'abord à l'essoufflement paternel du magistrat. La foule s'était écoulée après la réconciliation des deux plaideurs. Lorsque le juge improvisé se réveilla des tirades soporifiques du marquis, il y avait 2 heures et demie qu'il était absolument seul, ronflant comme un serpent d'église au milieu de la grande place du village. Mais le digne fonctionnaire était plus à plaindre qu'à blâmer. Tandis qu'il dormait, sa popularité s'en allait grand train, comme nous l'avons dit. La juste faveur qu'il avait paru accorder aux réclamations du propriétaire incendié avait achevé de le perdre dans l'esprit des populations. L'enthousiasme des masses est une de ces bulles de savon qui crèvent comme elles se sont gonflées au moindre souffle.